Les gouvernements qui dépensent beaucoup d'argent pour être des intelligents sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires, pourraient d'abord découvrir s'il y a vraiment des intelligences ici. Et d'abord, de quoi on parle quand on parle de vie intelligente? L'intelligence dont je parle, on va parler un peu ce soir. C'est pas l'intelligence dans le sens qu'on entend généralement quand on dit quel type intelligent. Généralement, ça c'est l'intelligence à la surface. C'est l'intelligence des rapports entre les phénomènes. C'est une intelligence intéressée, c'est une intelligence qui a un but. Une intelligence qui a une direction qui est pratique. C'est une intelligence qui souvent est inquiète. Elle a sa place, elle a sa beauté, bien sûr. Mais c'est pas la... C'est la surface, c'est vrai. Pour moi, le plus grand signe d'intelligence, c'est la joie. C'est le bonheur. À quoi ça sert d'être intelligent si on est misérable? C'est pas intelligent. Ça donne quoi? Alors l'intelligence inquiète. C'est pas ça. Intelligence, hein, le mot latin d'origine interlitéré, je veux savoir lire entre. Lire entre les lignes. Lire entre les moments de perception. Lire entre les mots, bien sûr, lire entre les concepts. Lire entre tout ce qui peut faire l'objet d'un concept, d'une idée. Autrement dit, ça veut dire être ouvert à l'invisible. C'est ça, l'intelligence, lire entre. En général, la manière dont on vit au jour le jour, on s'attache énormément à tout ce qui peut faire l'objet d'un savoir. Tout ce qui est arrêté, tout ce qui est figé, tout ce qui est mémorisable, tout ce à quoi on peut penser. Or, l'intelligence, c'est de voir à travers tout ça, pas seulement à travers tout ça, mais derrière tout ça, au-dedans de tout cela. Alors, pour moi, c'est ça, l'intelligence. On peut voir s'il y a une manière de vivre en fonction de cette intelligence-là, en harmonie avec cette intelligence-là, autrement dit, en harmonie avec ce qui est impensable, avec ce qui est innommable, ce qui est inimaginable. Tout ce à quoi on peut penser, c'est pas ça. Et pourtant, ce à quoi on peut penser est pas différent et pas autre chose que ça aussi. Dans l'intelligence profonde, il y a une capacité d'étonnement, la capacité d'être étonné. Regardez au début comment on a tous cette capacité d'être étonné, d'être ravi. Et c'est pas qu'on la perd en vieillissant ou en devenant adulte, mais elle se recouvre d'une couche de plus en plus épaisse. Couche de savoir, hein. C'est tout ce qu'on sait, c'est tout ce à quoi on s'attache en termes de savoir qui nous empêche de nous émerveiller. C'est peut-être la première fois qu'on vient dans la salle, là on la regarde, le plafond, les murs, hein. Je ne sais pas si on est émerveillé, mais on est là, on est présent, on sent, on voit, on n'est pas en train de penser. On se laisse toucher par ce qui est là. On se laisse On se laisse regarder par les murs. C'est différent de regarder le mur. Dans regarder, souvent, il y a un mouvement de préhension. Et la mémoire est à l'arrière quand il y a une direction. Se laisser regarder. Se laisser toucher par les choses, par les événements, sans résistance. Là, à ce moment-là, une intelligence est possible. C'est pas l'intelligence qui est bon, c'est le concept de la mémoire, de s'y cristalliser. Christian Bobin, quoi, qui écrivait il y a très longtemps, les hommes avancent en aveugle dans leur vie, et les mots leur servent de canne blanche. Les mots, les concepts de savoir, c'est ça. Notre savoir, ça nous sert de canne blanche. Pour avancer en aveugle, on ne voit pas ce qu'on fait, on ne voit pas ce qu'on, non, comment on est en train de vivre, on ne voit plus. Si on le voyait, on vivrait autrement. On arrêterait de vivre dans la restriction, dans la vie non intelligente ou pas très intelligente. Dans une vie faite de d'inquiétude, faite de tension presque perpétuelle, toujours tendue, perdue. Regardez comment on a perdu cette facilité de vie. La vie est facile quand on est enfant. Ça se complique un peu adolescent et à l'âge adulte, ça devient très complexe. Qu'est-ce qui rend ça complexe? Il n'y a rien de complexe dans la vie. La vie, elle est simple, simple, simple. La simplicité même. Les choses sont ce qu'elles sont. Ce qui complique, c'est pas les choses, les formes, les événements. C'est moi dans tout ça. Et de ne pas le voir nous mène à nous conduire à mener des vies très inquiètes. Parce que tout ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on entreprend, presque pas toujours, très souvent, c'est pour combler un manque, c'est pour combler une soif. C'est réactif, c'est en réaction. On dirait que dans tout ce qu'on entreprend, dans toutes les directions qu'on prend dans la vie, il y a toujours cette espèce d'espoir éternellement déçu, d'espoir que l'instant d'après, enfin, on va peut-être saisir quelque chose de substantiel, enfin, on va pouvoir le prendre, là, le toucher dans sa main, quelque chose de tangible qui va nous rester. Tous nos projets, vus de loin, ils ont l'air substantiels. Ils nous promettent quelque chose de substantiel. C'est pour ça qu'on y va d'emblée, hein. Les énergies se refont dans telle direction. Quand on est déçu, là, il y a un moment de petite dépression, et là, à nouveau, un nouvel espoir. On passe toute la vie à faire ça. On va de l'espoir en espoir. Et ça, j'appelle ça une vie de désespéré. Il faut être désespéré pour vivre comme ça. Désespéré de ce qui est là, parce qu'on ne sait pas le voir. On ne sait pas se laisser regarder par ce qui est là. On le regarde de manière intéressée, c'est-à-dire à travers sa mémoire, à travers son savoir, à travers son vouloir. Alors, chaque fois que je réussis à saisir, à m'approprier quoi que ce soit dans la vie, quelqu'un, une situation, un gros compte en banque, la reconnaissance, je sais pas quoi, chacun transporte son véhicule personnel, non? On a tous, ouais, on fait tous la même chose, mais dans, avec des variantes différentes, des colorations différentes. Chaque fois que je saisis quelque chose, oui, il y a l'air d'avoir une accalmie, c'est très temporaire, et rapidement, on a l'impression que finalement, ben, il n'y avait rien.
Rien.
C'est vide de substance. Rien que je peux garder, il n'en reste rien. Hein, ou tomber amoureux de telle personne, ou de telle musique, de telle biologie, je sais pas. Et là, ouais, vous allez à fond, on prend là-dedans, puis à un moment donné, 3 mois ou 3 ans plus tard, la personne qui était si extraordinaire, qui avait toutes les qualités, vous êtes prêt l'acheter par la fenêtre, ou une idéologie qui vous avait tellement séduit, ou vous avez piétiné, etc. Alors, c'est pas une erreur, c'est pas une critique qu'on est en train de faire de notre façon de se lever, c'est juste que ça pointe vers une autre façon de vivre. Tout ça, c'est signe en direction de quelque chose qui, je ne dirais pas qui est substantiel, mais qui est vrai. Voilà, c'est vrai. Parce que toutes nos recherches, c'est en réalité poser une question. C'est un questionnement, notre vie entière est un questionnement. Ou plutôt un éternuement. C'est vrai. Ah, c'est là.
C'est bien?
Oui, ta vie entière est un questionnement. Toutes les directions qu'on prend dans la vie, en réalité, c'est poser la question, mais est-ce que c'est vrai, ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est permanent, dans le fond? C'est une façon de le dire, est-ce que c'est permanent? Hein, le bonheur qui m'attend, plus tard ce soir, demain, la semaine prochaine, dans mes vacances, à la retraite, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai décroché tel emploi, quand je serai divorcé, ce bonheur-là est-il permanent? C'est la question qu'on porte tous. Hein? On a des gros points d'interrogation, en réalité. On a des interrogations incarnées. On ne le voit pas trop comme ça, mais c'est vraiment ça. Et la réponse que la vie nous envoie, c'est constamment non. Non, c'est pas permanent. Rien de permanent. En tout cas, il n'y a rien de permanent dans notre manière de chercher. On cherche toujours des concours, toujours après des choses. Quelque chose qui est délimité, qui est circonscrit, quelque chose qui est localisé, quelque chose qui est figé, quelque chose qui est arrêté. Ça n'existe pas. Donc, j'appelle cette façon de vivre, non, je ne la qualifierai pas, mais en tout cas, c'est pas la vie intelligente, comme je la conçois. Il y a une autre manière de vivre. C'est possible. Je disais tout à l'heure, la joie, c'est le symptôme de l'intelligence. Donc, la souffrance, c'est le symptôme du contraire. Vous êtes malheureux parce que vous, ou quand vous pensez à vous-même et qu'il n'y a pas une telle chose. On est malheureux parce qu'on pense à un quelconque soi-même qui n'existe pas. C'est pas compliqué. On est obsédé par quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi chercher plus loin, à cause de nos tourments, de notre mal-être, c'est foutu en partant. Peu importe tous nos grands succès dans la vie, on peut développer des techniques, développer sa pensée, la manière d'envisager la vie pour devenir plus efficace, pour atteindre nos buts plus vite. Mais en partant, c'est foutu de toute façon. Tous ceux qui ont atteint leur but, qui ont réalisé leurs objectifs dans la vie, sont tous morts. Tous ceux qui ont pris les bonnes décisions dans leur vie sont tous morts. Ben, les autres aussi, des fois plus vite. Mais est-ce que ça va mieux, en réalité, que ça va mieux? Autrement dit, est-ce que on a étanché la soie? Ah, que j'ai étanché la soie, regardez. C'était dans ce texte d'invitation, hein, que Jésus disait il y a des dents. Celui qui boule, il disait ça à la Samaritaine, je crois, c'était au fil, là. Jésus lui a aidé à puiser les l'eau. Et en faisant ça, il lui a dit, celui qui boit de cette eau aura soif à nouveau. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Alors, quelle est cette sorte d'eau, hein? C'est pas l'eau du puits. C'est peut-être l'au-delà. Mais ne le nommons pas, surtout. Parce que trouver les réponses, en réalité, c'est congédier le questionnement. Alors, ce qui est intéressant, c'est le questionnement, c'est pas la réponse. La réponse, elle mène nulle part. La réponse, elle arrête le questionnement. Ça réduit le mental au silence temporairement, dans le meilleur des cas, c'est ça la réponse. Pourquoi pas, quand le mental est beaucoup trop agité, c'est un journement, bien sûr, mais parfois c'est nécessaire. Alors, tant qu'on a besoin d'une réponse, on ne va rien trouver qui est vraiment frais. Mais si on a la chance un jour de pouvoir demeurer avec la question, avec le questionnement, d'écouter la question. Pas essayer d'y répondre. Pas essayer de la matraquer avec une réponse. C'est presque toujours ça qu'on fait. On cherche une réponse. On cherche quelque chose de figé. Un bouchon. Pour mettre sur le goulot de la question. Voilà. Alors, c'est arrêté, c'est figé. La vie, dans la vie, il n'y a rien d'arrêté, il n'y a rien de statique, il n'y a rien de figé. Tout change, tout bouge. C'est dynamique. C'est un dynamisme constant de la vie. Alors, à chercher une paix statique, on perd son temps, on perd ses énergies. C'est inutile, c'est très fatigant. Alors, le mal-être, c'est de penser à soi-même. Vous avez peut-être entendu parler déjà de Jacques Lucérin, que vous avez peut-être parlé déjà d'ailleurs, quand c'était devenu il y a 7-8 ans, c'était la résistance. Et on est venu dans un camp de concentration, ils étaient 2000 Français envoyés au camp de Buchenwald en janvier 44. Et quand le camp a été libéré, en avril 45, il restait plus de 30 résidents sur les 2000. Il dit, la plupart sont morts, non pas des privations, des sévices, mais ils sont morts de s'être vus dans un camp, et d'avoir été, je ne sais pas lui, dans ces mots-là, c'est moi, mais ça revient au même, ils étaient obsédés par eux-mêmes. Et lui, il dit, en ces mots, que ceux qui ont survécu, c'est ceux qui étaient trop occupés à s'occuper des autres, ou à vivre au jour d'autres, pour penser à eux-mêmes. Pour même se voir dans un camp. Alors, la difficulté dans nos vies, c'est pas ce qui arrive. Il n'y a rien de difficile dans ce qui arrive. Il n'y a rien de pénible dans ce que la vie nous propose. Qui pénible, c'est moi. C'est moi dans les situations. Moi, là, l'image que j'ai fait de moi-même. tant que je suis obsédé par ça, tant que je suis obnubilé par la sauvegarde de cette chose qui n'existe pas, eh bien, la soif est toujours là. Je ne peux pas étancher cette soif-là. Pourquoi? Parce que la soif qui passe à travers la personne, c'est la nostalgie de ce qui est sans borne. C'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui nous satisfait dans la vie. Parce que tous les désirs, c'est une nostalgie de ce qui est sans limite. Il n'y a rien de limité qui va pouvoir étancher cette soif-là. Peu importe vos fantasmes, qu'est-ce qui vous rendrait heureux dans la vie, tout le monde a des fantasmes. Regardez, c'est quoi vos fantasmes, là? C'est-à-dire votre idée de ce qui vous rendrait vraiment heureux, là, tout de suite, dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Regardez, ceci, cela, cela, là, oui. Hein, visualisez-vous maintenant, ayant tout ça. Regardez-vous vivre là-dedans. Vous avez tout ce que vous faites pour vous souhaiter de vivre. Regardez. Vous allez voir. À soi, pour la vie. Les ennuyés, les stress à terme, alors non, soit d'excitation. Il n'y a rien de tangible. Il n'y a rien qui peut faire l'objet d'un savoir, il n'y a rien dont on peut parler qui va éteindre la soif. Ça, si on peut le voir clairement, on a vu quelque chose d'important dans cette vie. C'est là, c'est possible de vivre autrement. Ça devient possible. Il faut d'abord le voir. Quand on ne le voit pas, on va aller d'une poursuite à l'autre. Ça peut avoir l'air différent, mais dans le fond, c'est le même mécanisme. Or, très souvent, les poursuites, les pratiques spirituelles, c'est le même mécanisme. Dans le fond, on essaie encore d'attraper quelque chose. Encore quelqu'un qui court après quelque chose. Encore quelqu'un qui voudrait quelque chose qui prétendument n'est pas là actuellement. Si c'est pas là actuellement, ça sera jamais là. Courir après quelque chose qui n'est pas là, c'est une chimère. Vous ne deviendrez jamais un iota de plus que ce que vous êtes là. Oubliez ça. C'est pas déprimant. Ça peut paraître déprimant, mais oh là là, c'est bien de jouer un peu. C'est déprimant, pourquoi? Parce qu'on a une image très petite, très restreinte de ce qu'on est. C'est une image, c'est pas ce qu'on est. On est sans borne. On est sans limite. On est démesuré. Démesurable. Rien que démesuré. Et on deviendra rien de plus que ça. Pourquoi? C'est déjà plein comme un lac. Tu n'as rien ajouté. Quand vous ajoutez un, ou 1 000 milliards à l'infini, c'est quoi? C'est l'infini. Alors, c'est toujours le même mécanisme qui est à l'œuvre, presque toujours. Tant que je demeure obsédé par moi-même, tant que je veux quelque chose, c'est sans fin à ce moment-là. On va d'un ajournement à l'autre. On peut juste changer le mode de place, hein. On continue à réarranger le mobilier de la grande salle de bal dans le petit allée, qui est en train de sombrer. Ça change pas grand chose au résultat final, finalement. Un ajournement, c'est temporaire. Ah oui, parfois, quand on a un choc, quand on est face à un gros échec, grosse déception. Là, il y a quelque chose qu'on remet en question. On n'a plus le choix. Et seulement quand on n'a plus le choix, que ça se fait. Alors, faut pas s'en faire non plus. Pas d'inquiétude. Tout va bien. Tout va très bien dans vos vies. Même quand on se plaint, tout va bien. Et on se plaint parce que on en se plaint. Voilà. C'est normal qu'on se plaint. Quelqu'un va toujours se plaindre. L'être humain, c'est l'animal qui se plaint. Ça nous définit assez bien, je trouve. Parce que il y a un gouffre irréconciliable entre ce qu'on est et ce qu'on croit être. Ça prend quelque chose qui est tellement, tellement petit, alors on voit toujours se plaindre, c'est normal. On est localisé, on se localise. Ici, par rapport à là. Et donc, étant localisé dans l'espace, étant restreint, on est localisé dans le temps aussi. On devient le jouet du temps. Et l'intelligence de surface dont je parlais tout à l'heure, c'est une intelligence au niveau du temps, au niveau de l'espace et du temps. Le cerveau humain ne peut comprendre que le passé et le futur. C'est des imaginaires qu'il a créés. Et encore, ça c'est dans le meilleur des cas, il comprend très souvent, il comprend même pas ça. Il comprend rien. Mais, dans le meilleur des cas, il peut comprendre le passé, il peut comprendre le futur. Le présent demeure incompréhensible pour le cerveau. Le présent, il est sans dimension. Comme le monde de Bavard, mais plus mince que ça encore. Plus tranchant. Pas de dimension au moment présent. C'est incompréhensible, ça. Le moment présent. Le moment présent, c'est pour dire la réalité. Elle est incompréhensible. Que comprendre voudrait dire expliquer à partir d'une autre réalité. Il n'y en a pas d'autre. Ce qu'on est complètement incompréhensible. Ça sort du monde de la mesure. Comprendre veut dire mesurer. Expliquer. Alors, l'intelligence des gens intelligents, dont on dit qu'ils sont intelligents, performe à ce niveau-là. Je performais très bien, c'est magnifique. Comme je travaille, c'est beau. Mais c'est quoi l'intelligence de la vie? C'est pas l'intelligence du cœur. Voilà. L'intelligence du cœur, on comprend. Celle qui étanche la soif. Parce que l'intelligence ici, on va toujours avoir soif. Regardez. Regardez les gens intelligents, les gens pas bien, les gens qui ont compris, les gens qui ont vraiment compris. Ça va mieux. Ils sont en paix. J'ai oublié de terminer. L'intelligence vraie, elle vient justement dans un moment de vie, comme ça, voilà. C'est pas quand on oublie de terminer, quand on oublie d'être obsédé par soi-même. Voilà. Alors, ça donne à rien de se concentrer. Se concentrer, c'est l'affaire de l'ego, c'est-à-dire que c'est au niveau des images, au niveau de l'imaginaire qu'on porte. Exorciser la peur de ne rien être.